Il y a 2 semaines, ou presque, samedi le 5 novembre, je pense, ben, il y avait le podcast Mania à l'intérieur d'un événement qui s'appelle le Geekfest Montréal. Donc, ça avait lieu au Collège Maisonneuve. Puis, j'avais envoyé dans les mois précédents un petit message à Alexis Cornelier, l'organisateur, que je remercie en passant. J'avais envoyé un message pour lui dire, ben, tiens-moi au courant quand ça va arriver. Puis, en fait, quand ils ont annoncé la programmation, il m'a tout simplement renvoyé un message en me disant, ben, t'as une session samedi après-midi. Donc, j'étais très content. En même temps, entre-temps, ça faisait un petit bout. Puis, j'étais plus sûr de vouloir y aller. En fait, je suis très occupé, j'ai beaucoup de travail. Ça donnait pas super bien parce qu'on avait un brunch chez des amis ce midi-là. Mais en même temps, je me suis dit, faut que je le fasse. Si ça arrive pas, je produirai pas d'autres podcasts avant une couple de semaines. Donc, je me suis botté le derrière. J'ai envoyé des messages à certains de mes amis podcasters. Et puis, je leur ai donné rendez-vous à 13h45, au moment où est-ce que j'avais un temps pour enregistrer. Donc, on m'a accordé 1 heure. Donc, vous entendez cet audio-là près de 2 semaines après l'événement parce que, ben, entre autres, le jour de l'enregistrement, je commençais à avoir mal à la gorge, pas mal. Et j'ai eu un super rhume qui a duré plus de 2 semaines, près de 2 semaines, disons. En fait, j'avais un rhume la semaine précédente, puis j'ai recommencé à en avoir un autre cette journée-là. Ma fille est tombée malade. Elle est allée à l'hôpital pendant 3 jours. Donc, dans les journées qui ont suivi l'enregistrement, ma fille a fait de l'hôpital. J'avais enregistré un petit bout d'audio originalement parce que je voulais vous mettre ça en ligne très rapidement. Je me rappelle, j'avais la voix complètement cassée. Puis, j'étais à l'hôpital pendant que ma fille dormait sur mon ordinateur. Puis, j'essayais d'éditer cet audio-là. Puis, ça marchait pas, mon affaire, tout simplement. Je me suis dit, je vais attendre d'avoir la voix plus claire. Puis, je vais prendre le temps d'enregistrer quelque chose un petit peu mieux. Donc, on a ramené le mercredi soir ma fille à la maison. Puis, je prévoyais enregistrer le vendredi. Mon petit bout d'audio. Sauf que vendredi matin, la semaine dernière, j'ai été réveillé par mon téléphone. Il était même pas 6 heures du matin. Ça bipait à répétition. Pour m'annoncer que, un des 3 amis qui était sur mon show dans les jours précédents, un podcasteur que je connais depuis 10 ans, quelqu'un avec qui, à cause de qui j'ai commencé à faire du podcasting en grande partie. Un chum, Bob Goyetch, Robert. Il est décédé subitement d'une crise cardiaque le jeudi. Donc, le soir avant que j'enregistre ce bout d'audio-là. À peine, 4-5 jours après le podcast Mania. J'ai eu cette nouvelle-là. On n'est jamais prêt à encaisser ce genre de nouvelles-là. Bob, au cours des 10 dernières années, c'était un inconnu dont j'écoutais les podcasts. Il avait organisé un événement, la première conférence de podcasting à Kingston, en Ontario. Quand je dis la première, pas la première que lui a faite, la première conférence organisé uniquement à propos du podcasting. C'est lui, puis Mark Blevis, deux amis. Je me suis rendu là. Il me manquait quelques infos pour enregistrer des podcasts, pour savoir comment enregistrer des podcasts. Puis, j'ai pris l'info là. 2 semaines après, j'avais une émission en ligne. Et ça fait 10 ans que ça dure. Ça fait aussi 10 ans que l'amitié dure avec Bob Goyetch. La première année, on s'est parlé un peu, on a échangé un peu. L'année d'après, en fait, On s'est envoyé des courriels par la suite quand il a vu mon show était en ligne, parce que j'étais le seul non-podcaster qui s'est présenté à cet événement-là à l'époque. Alors, on a échangé quelques courriels. Après ça, on s'est revu à PodCamp Toronto l'hiver suivant. Puis quand je suis revenu à Podcasters Across Borders, l'événement, la conférence l'été d'après, ben on était amis. Puis ça n'a jamais arrêté. On est presque allé à tous les PodCamp Toronto, lui puis moi. Lui, il en a manqué une année. Moi, j'ai manqué une autre année. J'ai manqué un Podcasters Across Borders sur cette édition. On a co-organisé les Podcamps Montréal ensemble. On a co-organisé pendant une époque des rencontres de podcasters. Il y a un bout de temps, c'était mensuel. C'était souvent aux 2 à 3 mois. On le faisait en fait plutôt quand ça nous tentait. Puis quand on s'est vu la semaine, ben, dans les jours avant son décès, on a parlé avec d'autres mondes de refaire des rencontres de podcasters parce que ça nous manquait. Puis Bob m'a tout simplement regardé, ben, il dit, regarde, j'ai pas le temps, mais si ça veut dire de te voir plus souvent, ben je vais le faire. C'était ce genre de gars-là. Bob, c'est un gars généreux, un gars qui... qui mettait beaucoup les autres de l'avant, qui avait une forme d'amitié sincère avec beaucoup, beaucoup de gens. Puis il va nous manquer. C'est tout ce que je peux vous dire. Fait que je vous laisse écouter cette émission que j'ai enregistrée devant public avec Bob Goyetch, avec Mike Tremblay, avec... aussi Jean-François Poulain. Fait que, écoutez ça, je vais vous dire 2 mots juste après. Je vous reparle après, puis ben voilà. À tantôt. Alors bonjour et bienvenue au Podcast Mania. Mon nom est Sylvain Garmaison. Vous me connaissez, ceux qui sont là, ou peut-être les autres au fond, peut-être pas. Je suis content de venir ici parce que ça fait 10 ans que je fais du podcasting. Mon show a fêté son 10e anniversaire cet été et j'ai rien fait de spécial. Pourquoi? Ben parce que j'étais finalement trop occupé avec la vie, avec les enfants, avec tout ce qui se passe dans une vie d'adulte finalement. Donc c'est un peu ma fête du 10e anniversaire de mon podcast. Oui, hein? C'est drôle. Hey, quand même! Qu'est-ce qui m'a amené à faire du podcasting? Des fois, je l'ai déjà raconté que j'ai toujours trippé sur l'audio. Quand j'étais petit cul, je jouais avec des cassettes, je virais les tapes à l'envers, puis là, je m'écoutais parler à l'envers, puis là, j'essayais de parler à l'envers, puis je me réenregistrais, puis je remettais ça à l'endroit. Je faisais des conneries comme ça. Quand je suis arrivé à l'université, j'ai commencé à faire du montage vidéo et audio avec des reel-to-reel. Du vrai 4-track comme ça. J'ai toujours trippé sur l'audio plus que la vidéo. Pourtant, c'est paradoxal, je suis designer graphique, je travaille avec l'image tout le temps, mais jouer avec l'audio, faire croire qu'il y a quelque chose qui se passe alors que tout ça est inventé dans la machine, ça m'a toujours fait tripper. J'ai aussi toujours voulu faire genre de la radio étudiante, mais comme j'étais un timide maladif quand j'étais au secondaire, j'ai jamais fait de radio étudiante. J'ai comme mis ça de côté. Parallèlement à mon travail, je me suis acheté une interface audio. Je m'amusais sur des trucs juste pour le fun, jusqu'à un moment donné. Wow, le podcasting a commencé à exister. Et là, j'ai vu ma chance de devenir un animateur de radio, comme je m'étais dit dans ma tête un jour, je ferais. Sauf que le podcasting a été mis au monde la même année que mon fils est né. Et qui dit fils, dit premier enfant, dit non, il y avait trop de choses dans ma vie à ce moment-là. J'ai essayé de convaincre, au même moment, j'essayais de fonder, j'ai fondé une agence de communication avec un ami. J'essayais de l'embarquer, de dire, hey, on devrait faire des podcasts. Je me suis imaginé, fin 2004, faire des podcastings de pub, communication avec un chum, mais lui, il comprenait rien du web, tu sais.
Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, OK, j'ai mis ça de côté, j'ai juste continué. Puis à un moment donné, continué à me documenter. Je suis allé à un événement, un beau jour, et c'est là que mon podcast a commencé à exister. L'événement auquel j'ai assisté a été organisé par ce gars-là en 2006. On va venir tantôt. Ce gars-là, il est à ma droite, à votre gauche. Bob Goyetch. Je commençais à écouter Bob justement fin 2004, début 2005. Il faisait des podcasts. Podcasts, on dirait-tu humoristiques?
On vous essayait, oui.
Donc, c'est ça, Bob a commencé à faire des podcasts, puis ils ont organisé vraiment une des premières conférences ever sur le podcasting. Ça avait lieu en Ontario, été 2006. Quand je suis arrivé là, j'avais une vague idée de ce que je voulais faire comme podcast, puis quand je suis parti à la fin du week-end de conférence, c'était clair dans ma tête. Je me suis dit, OK, il n'y a pas de communauté de podcasting au Québec, il n'y a pas de show sur le podcasting, c'est moi qui vais le faire. T'sais. Et ça a toujours été comme ça. À un moment donné, on faisait des podcamps, il s'en faisait ailleurs. Je me suis dit, bien, on va le faire. J'ai appelé Bob, j'ai appelé d'autres gars, on a fait des podcamps. On a fait aussi des rencontres de podcasting. Il y avait les Yule Blog à tous les mois. Fait qu'on a dit, bien là, pourquoi on ne fait pas ça avec le podcasting? On ne le faisait pas à tous les mois. Des fois, c'était aux deux mois, mais il y avait des rencontres pendant à peu près 3 ans, à tous les 2 mois à peu près, de podcasters à Montréal qui se faisaient. Puis c'était quand même le fun. Jusqu'à ce que, ben, un jour, j'ai déménagé de Montréal. Je suis devenu un banlieusard et mon podcast a failli mourir. fait que j'ai décidé de faire un podcast avec du monde, parce que moi, d'habitude, je suis tout seul, je suis chez nous, j'ai mon setup, tout est structuré, puis je me suis dit que ça allait peut-être être plate me voir gesticuler devant vous autres à parler de mes affaires. Fait que, puis je trouvais ça le fun d'inviter inviter des chums à parler de podcasting. Le premier s'appelle Bob Goyetch. Hey, salut Bob.
Salut Sylvain, comment ça va?
Bien, ça va bien, on se l'est demandé tantôt, mais on se leur demande quand même pareil, parce que là, les autres ne le savaient pas qu'on était déjà là, mais oui, ça va bien.
Oui, c'est le fun de revenir à un événement podcasting à Montréal. Il me semble que ça nous manque.
Mais hein, ça manque des événements de podcasting à Montréal. Tantôt, j'allais dire, on devrait en organiser. On est déjà passé par là. Je ne sais pas si on serait game de refaire ça.
J'ai beaucoup d'admiration et pitié aussi pour les organisateurs, parce que je sais c'est quoi. Puis ouais. J'en ai fait plusieurs, Sylvain, aussi, ensemble et séparément, on a fait plusieurs. Hey, c'est de la grosse job organiser quelque chose comme ça. Dans le contexte, des fois, d'un autre événement ou même à part, c'est vraiment tout. C'est une épreuve, c'est sans récompense vraiment, sauf l'amour de le faire. Fait qu'il faut vraiment apprécier les organisateurs de l'événement.
Oui, parce que Bob, il y a 10 ans, a organisé le Podcasters Across Borders qui a duré quoi, 7 ans, je pense? 6 ans?
2006 à 2013.
Oui.
Ouais, on a fait ça.
Puis, il était deux. Ils ont organisé un week-end de conférence à Kingston, même pas dans leur ville, à deux, avec un line-up de top conférenciers du monde de la CBC, du monde... c'était hallucinant, là. Toutes les meilleures au Canada étaient là. Hein? C'est pas mal ça.
Et des États-Unis aussi.
Et des États-Unis, oui. Ouais. Il y a eu beaucoup. Même Chris Brogan est venu.
C'est ça. On avait choisi la ville de Kingston, tout simplement, parce que je voulais absolument pas faire ça à Toronto. Puis à Montréal, j'ai dit, je vais juste prendre du monde de Montréal. Fait que... On a vraiment pris une carte routière, puis on a dit, bon, ben Montréal, Toronto, à mi-chemin, c'est à peu près là. Ben ah, regarde, il y a une autoroute qui monte des États-Unis, un interstate qui monte dans le bout de Kingston. Bon, ben regarde, ça va être Kingston. Fait qu'on est allé choisir le très luxueux Holiday Inn Kingston Waterfront, où on a reçu pendant plusieurs années des centaines de podcasters à chaque année. Puis c'était vraiment le fun. C'était beaucoup de travail, là.
Oui, c'est beaucoup de travail. Mais aussi, tu sais, ce qui était le fun de cet événement-là, c'est que tu es dans une petite ville, personne n'est dans sa ville, tout le monde est comme en visite dans le même hôtel, fait qu'il y avait une vibe que j'ai jamais revécue dans aucun événement, là. C'était absolument hallucinant. Tu sais, on était au début, quoi, 120, 160, les deux premières années, le plafond voulait lever, là, à force. La raison pourquoi j'ai amené Bob ici, c'est que moi, je le connais parce que c'est un ami.
Merci.
Tu sais, je veux dire, quand tu as vu un gars à moitié sous en bobette dans une chambre d'hôtel, tu peux le considérer comme ton ami, je pense.
Donc tu es également mon ami.
Oui, c'est ça. Hein? bref, c'est ça, Bob. Oui, il a organisé des événements de podcasting, mais c'est pas juste ça, c'est que les gens ne le savent pas que ce gars-là, ça fait 12 ans qu'il fait du podcasting. Il a commencé à faire du podcasting quand il y avait à peu près 5 personnes au Canada, 5 shows de podcasting au Canada, pas au Québec, au Canada. Quoi? Même pas 200 dans le monde, à peu près.
Oui, c'était tout nouveau. Écoute, ça a commencé vraiment... l'historique est écrit. Là, c'est commencé avec BloggerCon en 2004, où ce que Adam Curry avait fait sa présentation, une fois qu'on pouvait mettre des attachements de médias dans un fil RSS. Moi, j'ai vu ça. Il publiait. C'était une des premières conférences où il publiait toutes les conférences. Fait que BloggerCon, c'était une grosse conférence de blog. C'était en Californie quelque part. Mais toutes les conférences étaient en live stream, qui était quand même une nouveauté pour 2004.
Ouais.
Et j'y vois la conférence, puis je vois Adam Curry avec son MacBook Pro. Ça n'existait peut-être même pas. Là, c'était, il y avait encore une prise d'écouteur dessus, tout. Puis il était en train de... Il montre comment il enregistre, comme son émission de radio. Lui, il avait un historique de radio. Il enregistre son émission de radio, mais au lieu d'aller vers un émetteur, il allait vers un enregistreur ou une enregistreuse, dépendant de votre point de vue. Puis là, il prend ça, puis il crée un MP3, puis c'est distribué. Puis j'ai trouvé ça magique. Moi, j'avais fait de la radio pirate dans les années, en tout cas, avant ça. Puis j'avais toujours eu un faible pour la radio. Donc, je voyais, oh, j'ai une chance de m'amuser dans ce domaine-là puis de découvrir c'est quoi le podcast. Le mot podcast venait d'être inventé.
Oui.
Donc, vraiment, ça a été juste right place, right time. Vraiment, une question de voir les choses comme il se passait puis être vraiment dans les premiers à pouvoir jouer. Ça a été le fun de faire ça.
Première chose, c'était Bob and AJ Show.
C'était Bob and AJ. C'était deux francophones qui faisaient une émission en anglais pour plaire... un auditoire plus américaine, mais ça a été bien. On a commencé en octobre 2004. On a fait ça jusqu'à 2007-2008 à peu près.
Ouais. Vous avez peut-être refait une couple d'autres juste pour le fun, mais ouais, ça a pas mal arrêté là. Ouais.
Bon, en prenant une bière ensemble, on fait quelque chose pour le fun, là, mais vraiment les efforts officiels, si on veut, là, c'était dans ces années-là.
Puis c'est très drôle, Bob and AJ Show, il se mettait dans toutes sortes de situations. Je me rappelle une fois, je pense que vous étiez au... c'était-tu dans le garage chez AJ, puis là, il racontait ben il y avait une chaudière de métal, puis c'est là-dedans qu'il pissait parce qu'il n'y avait pas de toilette dans le garage, puis de ce genre d'affaires-là, tu dis...
Il était en train de se bâtir une maison, puis il n'avait pas bâti les essentiels en premier.
Oui, c'est ça. Fait que là, il bâtissait sa maison, puis il allait pisser d'une chaudière dans le garage, puis eux autres, ils enregistraient des affaires de même. C'était très drôle aussi. Il buvait du fort, il buvait du rhum sur le show, puis tout ça.
Un petit peu trop, même.
Oui, c'est
un
ça.
Un peu
hein?
trop,
ouais. Ouais. Sauf que c'était très drôle, mais il y a un épisode épique, je pense que je devrais le mettre dans les notes de l'émission, l'épisode de John Deere.
Ah ouais.
Ça, c'est très drôle. Il y avait trouvé de l'audio qui venait d'un disque vinyle qui venait quand tu achetais genre un tracteur John Deere, mais tout était à double sens. C'était hilarant, puis eux autres étaient crampés. Moi, je me rappelle où j'étais assis quand j'ai entendu ce show-là, tellement je riais. J'étais dans l'autobus, le monde me regardait comme si j'étais un hostie de cave. Mais c'était le fun, c'était vraiment drôle.
Ouais, c'était bien, puis André et moi, des amis de longue date, depuis le début du secondaire qu'on se connaît, fait que ça a été vraiment, tu sais, avec des amis proches, tu peux faire des choses, puis tu sais comment Claude va réagir, ou tu peux réagir, puis tu sais, ah, mais je veux pas t'offenser, mais tes tweets, c'est moins drôle, mais quand on se connaît bien, puis ben, t'es jambon, là, ça permet des choses d'avancer plus rapidement, puis vraiment, on a eu du fun.
C'est ça.
Jambon, banlieusard.
Oui, c'est ça. Ah, ouais. C'est du jambon fumé, en plus. Bob, en plus de faire Bob and AJ, t'avais fait un show qui s'appelait Mostly Tunes. Donc, il faisait un show de musée. Il faisait jouer de la musique qu'il aimait, genre style plus DJ.
C'était vraiment parce que, initialement, comme n'importe quoi qui commence, il y a toujours un groupe de personnes qui veulent mettre des règlements autour de ça, puis des normes, puis des choses comme ça. Moi, ce que j'aimais du podcasting, c'est qu'il n'y avait pas de... Les règlements n'étaient pas écrits, il n'y avait pas de normes, c'était fait que ce que tu veux faire, puis vois si tu aimes ça. Puis vu, dans Bob Dinger Show, on jouait un peu de musique, on avait été demandé de joindre une association de podcasters de musique. On a dit, ça ne coûte rien, on va mettre c'est un lien de plus pour notre site, ça ne me dérange pas. Puis après ça, on s'est fait dire qu'on ne jouait pas assez de musique pour rester membre de l'association. Mais on n'avait pas demandé d'être demandé. On voulait pas être membre de l'association. On avait été demandé, puis après ça, on a été comme demandé de faire partie de ça. Fait que là, j'ai voulu envoyer chier tout le monde.
Ouais.
Fait que il n'y a pas assez de musique. Fait que j'ai créé une émission de 30 minutes qui avait 29 minutes 30 secondes de musique à chaque épisode. ça a été très populaire. J'en ai fait une soixantaine, je pense.
Ah oui, puis il parlait juste au début. Là, c'était juste la musique. Puis tu sais, genre, tchao bye à la fin, c'était tout. Là.
C'était vraiment. Puis là, l'association me revient. parce que là, voit l'émission de musique, puis c'est tellement avec nos mœurs puis nos valeurs. Mais ils n'ont pas réalisé que c'était moi qui venais de colisser dehors deux semaines avant. Puis j'ai refusé de joindre l'association, puis la joke a comme continué. Mais c'était le fun parce que au début, on avait beaucoup de craintes au niveau des droits d'auteur, puis la musique, toi, de...
Y a-t-il déjà quelqu'un qui s'est fait poursuivre pour ça?
Jamais que j'ai entendu, mais au début, on avait peur de ça.
Non, c'est sûr. C'est encore une question que je me fais poser régulièrement, mais ben, à un moment donné...
Fait que Bob et AJ, on jouait de la musique, nous autres, qui était partagée par les artistes même. Fait qu'à chaque semaine, je recevais une pile de
disques compacts. Ah oui, c'est vrai, vous saviez...
Fait que j'avais toute cette musique-là. Bob et AJ, on jouait deux, peut-être trois chansons par épisode.
Dans le temps qu'il y avait des disques compacts.
Fait que je recevais une pile à toutes les semaines. Puis là, je disais, c'est un peu... C'est plate. Je me sentais coupable de pas au moins donner une chance aux autres à entendre ça. Fait que c'est, moi aussi, tout nous a servi à ça un peu aussi. Je passais la musique pour là-dedans.
Ton troisième show, à un moment donné, il s'est mis à faire des... C'était très populaire, là, dans les années, 2005, 2006, 2007, là, 2008, des couple cast.
Ouais.
Un show avec sa blonde. Mais en fait, c'était le show de Cathy, ta blonde, mais...
Ouais. Oui, c'était vraiment, c'était plus, parce qu'elle a dit, écoute, donc, tu passes beaucoup de temps dans le studio.
Qu'est-ce que tu fais là, je veux voir.
Je te vois plus, ben je dis, viens-t'en.
Ouais.
Puis là, elle a créé son show, puis là, c'était moi le deuxième. Fait que sur les autres missions, c'était moi le lead, puis les...
Ouais. T'étais le deuxième, mais c'était lui qui avait, toutes les punchlines venaient de bas.
Oui, mais ça, c'était le seul podcast où ce qu'on a vraiment eu un contrat de commandite.
Ah oui.
On nous avait dit, il y avait une émission qui était à HBO dans le temps qui s'appelait Big Love, puis on nous avait demandé de passer des annonces ou de créer les nôtres. Mais là, on va passer les annonces d'un autre pour 2,5 piastres l'épisode ou je ne sais pas trop quoi c'était. J'ai dit non, on va en créer une. Puis j'avais juste... C'était vraiment improvisé. J'avais pris la guitare qui était dans le studio puis j'ai commencé à chanter complètement une niaiserie. J'avais pas vu l'émission. J'avais juste la liste des humoristes qui étaient dedans. Puis j'inventais des niaiseries avec leur nom. Puis après ça, ils ont voulu servir de cette annonce-là pour les autres podcasts. Si vous voulez pas créer votre propre annonce, prenez celle-là de Bob.
Prenez celle-là de Bob.
Ça a été notre revenu complet de cette aventure-là. Je pense que ça a été 38 US. ça demeure à ce jour mon plus gros...
Le seul argent qu'il a fait avec le podcasting,
C'est le seul argent. Donc, je suis quand même dans les moins, mais je suis 38 piastres de moins que je pourrais l'être.
Puis à cette époque-là, c'est là que tu as connu Mark Blevis.
Oui.
Et lui puis Mark ont fait un podcast pendant des années qui s'appelait le Canadian Podcast Buffet. Le but était un peu de promouvoir puis le podcasting, puis aussi de faire une communauté. C'est là qu'ils ont organisé les conférences de podcasting. Et c'est là qu'on s'est connus, finalement.
Oui, effectivement. Le but, c'était vraiment parce que, juste en termes de population... versus les États-Unis. Écoute, on n'est pas gros. Tout le monde se faisait comme... On se perdait dans la vague. Fait qu'on a voulu vraiment faire quelque chose où au moins les Canadiens, on pourrait se ravancer dans un coin de sol puis se comprendre entre nous autres. Ça a vraiment été bien. Puis après ça, il y a les Américains qui ont voulu joindre parce qu'ils se sentaient plus dans notre communauté que dans la leur. Donc, ça a été bien. On avait des gens de Détroit, de New York, de Boston qui venaient partir.
Puis là, tous ces quatre shows-là que tu faisais, maintenant, ils n'existent plus ou ils sont storés puis ils sont en dormance.
Ouais.
Là, tu fais d'autres choses. Tu fais le Marshall McLuhan Hour.
Oui. Ça, c'est vraiment une émission plus... quasiment une parodie des émissions de variété des années 70, qu'on peut penser les Tannants ou des choses comme ça. En anglais, Marshall McLuhan étant un prof, je ne sais pas s'il est connu dans le monde francophone vraiment.
Non, pas en tout.
C'est l'équivalent au Québec, Marshall McLuhan, ça serait un... Je sais pas. En tout cas, un grand connaissant prof que personne n'est d'accord avec, mais vu qu'il est bien connu, il faisait ses énoncés sur les médias et sur la société, puis tout le monde le croyait parce qu'il fumait une pipe. Fait que c'est un peu, on se modèle là-dessus, puis on rit de lui, mais dans le fond, c'est le comment je pourrais dire, le gros but de l'émission, c'est trois chums qui se parlent de tous les sujets.
Ouais.
Donc, puis c'est trois chums...
Enregistré sur Skype.
Parce qu'il y en a un qui est à Hamilton, il y en a un qui est à Sault Ste-Marie, en Ontario.
Ouais, un qui est représentant syndical, l'autre est prof au niveau universitaire de psychologie, puis il y a toi.
C'est ça, il y a moi. Je suis Québécois Bob, honorifique.
Bob, dans la vie, travaille chez IBM.
Oui, c'est ça.
Toujours, hein?
Oui.
Ouais, t'as pas changé dernièrement, que
non.
Je sais.
Non,
c'est bon.
Fait que c'est le fun, c'est vraiment toi, Trump. Puis même ça allait mener à un autre événement qu'on crée... tous les étés, on fait une rencontre, on appelle ça le Marshall McLuhan Roundtables, parce qu'on réalisait qu'on allait à des conférences comme PodCamp ou comme GeekFest, des choses comme ça. Puis les sessions, c'était bien le fun, les panneaux, les discussions, Mais c'était dans le couloir que c'était le fun, parce que c'est là que tu rencontrais des gens, c'est là que tu avais vraiment des échanges. Fait qu'on a créé un événement où ce qu'on a enlevé les sessions, puis c'est juste du couloir.
Ouais.
Fait qu'on se promène d'un restaurant à l'autre, on s'assied à une table, on boit, on mange, on lève. On s'en va ailleurs, on s'assied, on boit.
Ce qui est juste plat, c'est que ça tombe toujours durant mes vacances. Puis moi, aller faire mes vacances à Hamilton, je suis pas sûr.
Je vais te dire, c'est spécial. Ouais. Mais ils sont gentils, il faut les aimer. Ma grand-mère disait qu'il faut les aimer.
Ouais, faut t'aimer tes amis pour aller à Hamilton.
Mais on avait du fun pareil, c'est le fun.
Ça fait déjà 15-20 minutes. Je pense que c'est le temps qu'on invite notre deuxième invité, que tu connais pas, je pense. Deuxième invité. Mais tu vas participer. Okay. Quand même, j'espère, tu vas rester. Monsieur Mike Tremblay. Du super matozoïde. Salut Mike.
Bonjour tout le monde.
Hey, ça va bien?
Hey, oui, on va régler quelque chose tout de suite. Ça a l'air que pour être ami avec toi, il faut être à moitié sous et nu. Donc, je suis déjà à moitié sous, donc je vais me mettre nu maintenant.
Tu peux enlever ton chandail, il n'y a pas de problème. Avant qu'on commence, écoute, tu sais, au début de mon show, il se passe toujours de quoi, hein?
Ah!
Il y a un segment qui est toujours populaire, je sais pas si tu te rappelles du nom, mais vaguement. Ça s'appelle le carburant de la semaine.
Oh!
Et c'est un carburant fabriqué maison.
Sans étiquette.
Sans étiquette, c'est louche. non, sans blague.
Oui.
Ben oui, hein? Puis j'en ai pour vous autres aussi, quand
même. Gang de chanceux, on va tous être malades en même temps.
Ouais. C'est une pale ale anglaise. Comme c'est une pale ale anglaise, c'est pas très pétillant. C'est des houblons anglais, fait que c'est rien de citronné ou quoi que ce soit. Puis tu vas voir, c'est pas super pétillant. Mais c'est fait comme ça. Des reflets roux.
Mais c'est maison.
Oui, c'est fait de mes blancs chemins. Et avec à la sueur de marais.
Oh, quand même! Mais ça goûte... L'ingrédient spécial.
Oui, inquiète-toi pas, ça goûte pas la sueur de riz.
Ah, OK, super.
OK. Donc.
Wow! Hey, quel accueil!
Tu me diras ce que t'en penses.
T'es généreux envers toi-même?
Oui, c'est ça. Moi, je la connais déjà, j'ai goûté, je me suis dit cette semaine, c'était correct. Hey, santé, les gars!
Un petit goût, un petit...
Très malté.
Oui. Le malt, du petit côté... Peut-être noisette un peu. Oui,
des houblons assez terreux, assez... Oui, puis... Vous autres?
Y en a-tu qui en veulent? C'est gratuit, là. Profitez-en.
Allez-y.
Oh, avec libre service. En plus, on vous a à deux pouces la face.
Ouais.
C'est VIP comme podcast.
Profitez-en, là. Je fais mon carburant de la semaine. Puis
hey, cheers. Oui. Sylvain m'expliquait que la partie la plus compliquée, c'est de laver la bouteille pour enlever l'étiquette une fois qu'elle a été achetée, la bière.
Oui, ouais, c'est ça.
C'est vraiment bien collé. Faut vraiment frotter fort.
Oui, non, sans blague, mais c'est pas pire. Les bouteilles européennes se lavent mieux que les bouteilles nord-américaines.
Ah oui, pourquoi? Font moins poreuses?
Juste la sorte de colle.
OK.
Oui, c'est comme si... Ah oui, venez, hein? Allez-y.
Non, mais très bonne, hein?
Hey, tout le monde...
On vous invite à venir prendre un verre. Ceux qui sont derrière,
ouais.
Ceux qui ont payé pour leur bière, vous pouvez venir déguster votre bière ici avec nous, avec le super matozoïde et Sylvain Grandmaison et son invité.
Donc, Monsieur Bob.
Oui, Monsieur Bob.
Ah, ça fait plaisir. Puis il y en a d'autres, allez-y.
Seigneur!
Écoute, il en reste même dans mon char.
Là, pour les gens qui écoutent seulement la partie audio, il y a 42 personnes en ligne présentement pour la bière à Sylvain.
Dont des gens qu'on connaît même pas. C'est donc bizarre.
Lui, je le connais, par exemple, il habitait à même pas 100 mètres de chez nous quand j'étais petit.
Ah, enchanté.
Hey, c'était mon voisin.
Ah ouais.
Et c'est pour ça que tu es devenu banlieusard? Ou c'est...
Oui, c'est ça. Ça me rappelle cette époque-là. Okay. Oui. Non, blague à part. Bref, on va revenir à nos moutons. Mike Tremblay, tabarnouche, que je suis content d'avoir sur le show parce que tu as un podcast qui, disons-le, s'en vient de plus en plus populaire.
Oui, quand même.
Le numéro un de Radio H2O, est-ce que j'ai entendu sur ton podcast ce matin? très écouté. Je voulais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire du podcasting, premièrement?
Ben moi, ça a l'air de rien. Je suis un gars de radio. Ouais. À la base, j'ai travaillé au niveau de la radio. Puis, à un certain moment donné, CRTC, avec le pourcentage de musique francophone, puis toutes les restrictions qu'il y a autour, je sais pas, je sentais qu'il y avait de moins en moins de liberté autour de ce médium-là qui est tellement beau, tellement le fun. J'ai décidé de partir mon propre podcast avec mes couleurs, mon logo, mes invités, mes chroniqueurs, ma musique aussi. Donc, c'est tout simplement le goût de la liberté que l'Internet me procurait.
Oui. Puis, je voulais savoir, je n'étais pas sûr à un moment donné, parce que je savais que tu étais un gars de radio, mais ton podcast, as-tu déjà été diffusé sur les ondes hertziennes ou pas du tout?
Je pense que oui. Je pense que oui. Peut-être que Beau Tracks, qui est ici, de Radio... Ouais, je pense qu'à La Salle, peut-être. En tout cas, je sais qu'il y avait des ententes avec Radio H2O. Certains podcasts qui... En tout cas, qu'il y avait des ententes avec des radios hertziennes, mais j'ai jamais prêté attention vraiment à ça. Moi, je continue à faire mon... C'est une espèce de produit clé en main que j'envoyais à Radio H2O. Puis après ça, eux autres, ils l'exploitaient, faisaient des millions avec ça. Moi, j'avais pas une scène, mais c'est pas grave. Ouais. Je veux dire...
c'est toujours le truc, hein? Donne-nous ça, tu vas avoir de la visibilité.
Oui,
nous, on va faire
ça,
de l'argent, mais
ça.
Toi, tu vas avoir une belle visibilité.
Tu vas avoir ta page Facebook, avec full populaire.
Oui.
Ouais.
puis c'est ça, c'est que... tu sais, quand on écoute ton show...
Ouais.
Moi, je trouve que c'est un peu. T'es allé chercher un peu des deux, un peu du monde traditionnel de la radio et un peu du podcasting. C'est-à-dire, t'as une structure traditionnelle, mais t'as un ton très podcasting.
Oui, mais ce qui est important là-dedans, c'est avant de partir mon podcast, j'ai vraiment fait des recherches. Moi-même, j'étais pas un grand connaisseur de podcasts. Je connaissais des podcasts comme Podcast with Cheese, justement, de mon ami GoTrack, c'est ici, en direct de nulle part, des amis de Radio Jozo. Puis, je me suis dit, oh, OK, je suis capable d'aller chercher le juste milieu. Donc, le côté podcast, liberté, on fait ce qu'on veut, on fait jouer ce qu'on veut. Et aussi, le côté, on va faire un semblant d'émission radio structurée avec des jingles, des publicités, pour justement que la personne qui est habituée d'écouter la radio fait pas de saut. Tu sais, parce que souvent, les gens, ils entendent le mot podcast, ils vont se tourner vers un podcast, ils vont écouter ça, ils vont faire comme « Ah, c'est pas de la radio! » Puis ils vont raccrocher tout de suite. Ouais. Ça, c'est la pire chose. Malheureusement, pour le podcast, c'est ce qui joue contre nous autres. C'est le côté, le manque d'affinité avec la radio.
Ouais, ouais.
C'est une qualité, mais c'est un défaut en même temps. C'est une qualité parce que c'est ce qu'on veut, mais c'est un défaut pour monsieur, madame, tout le monde, les matins.
Il y a un temps d'adaptation.
Oui, oui, mais souvent, les gens, à cause que c'est compliqué, un peu comme technologie, il faut aller chercher le MP3, le télécharger, le brancher sur son... T'sais, c'est pas comme une radio normale que nos parents sont habitués, qu'ils nous ont habitués.
C'est ça qui est paradoxal, c'est que même si... T'sais, justement, nos parents ont des téléphones intelligents, ont la chance d'avoir toutes ces applications-là. Ils ne sont pas tech-savvy comme nous autres. Nous autres, on a été habitués à ça, on vit avec. Mais même du monde de notre âge, hein, tu leur parles de podcasting, tu leur expliques, là, ils disent « Ah, mon Dieu, ça a l'air compliqué. » Non, non, dans le nom de l'application, tape le nom de mon show, c'est réglé. Là. Mais on dirait il y a des steps comme ça. Toi,
non, mais même pour nous autres, moi, le podcast, je suis là-dedans depuis longtemps. Puis des fois, quelqu'un que je rencontre à une conférence, un événement, va dire « Hey, viens écouter mon podcast, c'est Toutou puis Minou. » Puis là, tu sais, tu l'as pas avec toi, tu l'oublies. Puis tu peux pas juste baiser un piton. Il y a toujours, même pour nous autres, des fois, je pars le matin, moi, c'est surtout en auto que j'écoute mes podcasts. Si j'ai oublié de synchroniser avant de partir dans l'auto, ben là, regarde, je passe à d'autres choses parce que c'est trop compliqué de le faire en conduisant ou des choses comme ça. Fait que c'est la pire chose, ça fait 12 ans que c'est de même. Il y a eu des applications qui ont rendu ça beaucoup plus facile, tant pour la production que l'écoute, mais on n'est pas encore là.
Ben, tu sais, c'est un peu comme au début de la télévision. Il y avait différentes technologies, puis les émissions qui étaient diffusées par telle technologie pouvaient s'écouter par telle technologie. Puis la même chose, il y avait une autre technologie, il y avait la télémécanique en Angleterre, il y avait d'autres, puis avant qu'ils trouvent un standard, puis là, un standard de signal, et là, tous ceux qui émettaient pouvaient diffuser aux autres qui recevaient. Ce qui arrive avec le podcasting, c'est qu'il n'y a pas un hub central. Oui, il y a iTunes là, qu'on aime détester, là. Mais sinon, c'est pas nécessairement toutes les shows qui sont inscrits sur iTunes. Il n'y a pas vraiment un standard, une place où est-ce que tout est centralisé. Il faudrait que ça soit probablement un organisme indépendant là, qui fasse ça, là, comme Internet Archive ou quelque chose comme ça. Mais ça manque.
Mais au Québec, on est chanceux. On commence à avoir plusieurs plateformes. T'sais, on parlait de Radio H2O, il y a RZO, il y a PodQuébec aussi, PodQuébec.com. Il y a plein de places comme ça, quoi, les gens qui veulent vraiment écouter du podcast. Là.
Oh, oui.
On s'entend, si tu as envie de voir de la porn, tu vas aller sur Google, tu cliques.
Moi,
si tu tapes porn, non, mais je te vise pas particulièrement, là. Je visais quelqu'un dans la foule. Je te regarde parce qu'on travaille ensemble, là. Mais sinon, je veux dire, tu cliques, tu tapes porn, tu vas le trouver assez facilement. Podcast, c'est la même chose. Tu vas arriver sur un site, tu écris Podcast québécois, tu arrives sur un site, c'est à toi de travailler un petit peu pour trouver, mais c'est là que ça devient comme... négatif pour nous autres. C'est mettre de l'effort, du travail. Les gens, c'est tellement performant, ils veulent de quoi de rapide, ils veulent du fast-food.
La télé, c'est simple. Tu loues, tu payes sur le piton, tu changes de poste.
C'est ça.
Podcast, c'est que tu vas sur le site d'un, tu vas sur le site de l'autre. Les boutons ne sont pas à la même place. Tout est différent dans tous les sites. Des fois, les mécanismes pour s'abonner ne sont pas les mêmes, ou même pour faire play. T'sais, des fois, il y a plusieurs étapes pour se rendre. Fait que là, c'est ça qui...
Mais il n'y a pas juste le niveau technologique. Il y a le niveau... Le podcast, je trouve que c'est une connexion entre l'émetteur et l'écouteur personnel. Tu sais, des podcasts de tech, là, que bon, Windows 10.02 est sorti, il y en a 600 000 qui vont dire ça. Mais si tu n'as pas l'affinité pour la personne qui te donne la nouvelle, ou tu n'as pas le lien personnel parce que tu le connais déjà, que ce soit quelqu'un que tu connais ou un autre, tu ne veux pas le savoir.
Non.
C'est capable, de toute façon, tu vas tout lire dans ton Google News. Fait que c'est vraiment, le podcast, c'est plus personnel, puis c'est comment établir le lien avec la personne.
Ouais.
Puis après ça, une fois que tu as le lien avec la personne, je suis sûr que des gens qui ne boivent pas, qui aiment ton carburant de la semaine.
Ouais.
Parce qu'ils t'apprécient toi comme personne.
Les Français, à chaque fois qu'il y a un Français qui s'abonne au show, moi, il m'envoie un message pour me dire qu'il aime le carburant de la semaine. Puis c'est drôle, c'est folklorique. Même il y a du monde, là moins maintenant, mais il y a eu une période, là, tu sais, 4-5 fois par année, il y a du monde qui m'envoie un message. « Hey, je vais aller prendre une bière avec toi. » Puis là, il me dit « Hey, si on prend un carburant de la semaine. » Non, on prend une bière.
Il y a même eu d'autres émissions qui ont fait le carburant de la semaine.
Hein, qu'est-ce que tu dis?
Il y a même eu d'autres podcasts qui ont fait ça.
On n'en parlera pas, mais je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Non, c'est ça, puis...
Non, c'est pas moi, là.
Tu sentais-tu visé?
Oui, parce que moi, je suis commandité par le trou du diable, donc il y a le débouchage.
Non, non,
début de chaque émission, je me demandais, bon, ça y est.
Non, lui, il appelait ça le débouchage. Non, il y a un autre podcast qui appelait ça le carburant de la semaine.
Le même terme, OK.
Oui, oui, exactement. Non, c'était...
C'est un hommage.
Oui, on va dire que c'est ça. L'autre chose aussi, il y a du monde qui me font le commentaire, des fois, c'est... Tu commences à écouter une émission, puis ils me disent « Ouais, mais l'audio n'est pas super bon, c'est pas bien animé, c'est pas bon. » Et ça arrive parce que tout le monde peut le faire, ça va avec le truc. Puis moi, je dis souvent, ben persévère, cherche-en d'autres, tu vas en trouver que t'aimes. Puis là, à un moment donné, c'est ça pour les gens qui n'ont pas tombé, ils sont pas encore tombés sur un podcast qu'ils aiment, de mettre du temps pour peut-être pas aimer ça, il y a un frein. Alors que quand tu as commencé à trouver des podcasts que t'aimes, hey, là, ça devient addictif. Là. Moi, je me rappelle au début, là, c'est comme shooter de l'héroïne. Là. J'en voulais. Je faisais juste ça, chercher des podcasts. T'sais. Fait qu'il y a ça aussi. Des fois, il y a un frein. Puis je me fais faire le commentaire. À un moment donné, j'ai réglé ça. Moi, au début, mon show sonnait comme de la merde. Puis je me suis équipé. Puis je me dis, regarde, on va régler ça. Là. Au moins, cette partie-là, j'aurais plus jamais le commentaire. Et là, après ça, ben, j'ai commencé à m'améliorer pour avoir une meilleure structure. Puis tout ça, tu sais. Fait que c'est ça, mais tu sais, il y en a que la plupart du temps, les gens s'améliorent, mais ça arrive des fois qu'il y en a des fois des podcasts, ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils en font, à toutes les semaines, tu réécoutes, puis ça sonne aussi mauvais que la première semaine, tu sais.
Mais ça, c'est une question de motivation aussi. Je veux dire,
ouais, aussi.
À quel niveau tu veux rendre ton projet? Tu sais, veux-tu faire juste ça comme un hobby? Veux-tu faire ça comme une carte de visite pour peut-être une future job? Veux-tu, tu sais, ça dépend de ce que la personne cherche avec son podcast. Comme moi, de mon côté, moi, c'est vraiment un hobby, mais c'est important en tant que gars de radio d'aller chercher un son quand même, je te dirais pas optimal comme le tien, t'as quand même un kit à plus évolué que le mien, mais d'aller chercher un bon son pour un podcast. Tu sais, c'est important quand même, parce que tu dis l'auditeur... Si ça pique tout le temps ou que le son est inégal, ça sera pas long, on va faire skip et on va aller voir quelque chose d'autre.
Sûr.
Ou pire encore, aller sur la radio FM. Là, c'est vraiment « Ah, non! » C'est pas ça qu'on veut, tu sais.
Non, on veut pas perdre les auditeurs qu'on a gagnés, tu sais.
Exact. Mais c'est ça. C'est au niveau vraiment de ce que tu veux chercher avec ton podcast. Puis moi, je l'ai trouvé de ton côté, je l'ai trouvé dans d'autres podcasts, mais j'ai réussi quand même à aimer certains podcasts qui ont un son peut-être inégal, mais que le contenu... Puis la personnalité aussi de la personne qui l'anime est super importante.
Ça compense pour un mauvais audio. Une personnalité ou un sujet intéressant va compenser. Tu sais.
Ouais. Mais aussi sur l'échelle, avec la technologie qui a avancé, puis des micros qui sont pas chers. Puis vraiment, autrefois, tu avais Affreux qui était 80% du contenu, puis 20% qui sonnait, disons, comme un Québec en balado. Mm-hmm. Aujourd'hui, le Québec en balado a toujours une très belle sonorité, mais il fait partie du 80% qui sonne assez bon.
Ouais.
Ah, c'est bon, on écoute ça sur des écouteurs qui font 2 mm dans le trou de l'oreille. Regarde, là. On est dans le métro ou on est dans l'auto. On n'est pas dans un studio insonorisé là, pour écouter ça. Là.
On peut en parler. T'sais, toi, tu as commencé il y a 12 ans. Moi, il y a 10 ans. Quand on a commencé, il n'y avait pas de kit de podcaster pas ça. Cher. Là. Moi, j'ai commencé avec un petit enregistreur iRiver que tu branchais. Puis, c'était épouvantable. Là. Puis là, après ça, j'ai acheté mon premier micro un peu meilleur. Mais là, j'avais pas d'interface. Là, t'achetais un mixeur qui te coûtait 300$. Mais tu sais, aujourd'hui, là, tu t'achètes un micro USB à 60-80$. Puis t'as, je dirais, 70% de la qualité de mon émission ou 80%.
Ou un kit Behringer déjà à 400$, là, tout compris micro, la petite console de sortie. Je veux dire,
La console va griller au bout de 2 ans, mais c'est pas grave. Non, au moins, ça sonne pas pire.
Mais tu l'as amorti 2 ans, c'est pas pire.
T'sais. Dans 2 ans, t'es en pleine commandite, puis c'est beaucoup d'argent. Fait que c'est correct.
Oui, non, c'est ça.
j'ai ça quand tu parles de mon histoire personnelle sans m'en parler.
Mais ben, moi, t'sais, ça, c'est un sujet qui était tabou auparavant. Maintenant, c'est mieux. J'ai fait mon dernier podcast cet été. Là-dessus, de l'argent et le podcasting, c'était très mal vu quand on a commencé. Bob, hein, je ne sais pas si tu te rappelles.
Ben, c'est comme, n'importe quelle initiative artistique. C'est où le lien entre l'art et l'argent? Mais on fait ça pour la pureté de la chose. Mais la pureté de la chose, il ne faut pas oublier qu'à 90% du temps, le monde émule la radio, qui est un média qui a été créé pour vendre du savon. Donc, regarde, faut reculer de là. Puis là, on est rendu là, je pense, normal.
Au début, j'ai commencé à faire moi, je faisais des contrats de podcasting. Là, j'en ai fait un l'année passée, mais pas plus que ça. Mais un bout de temps, je faisais 4-5 contrats de podcasting par année. Puis, je n'osais pas en parler, là, justement, à cause de ça. T'sais. Je le faisais jamais pour moi. Je n'ai jamais fait d'argent avec mon show. Je dis, à part les Google Ads, là, j'ai eu 2 chèques de 100$ sur 10 ans. Hey, on se roule par terre. J'ai réussi à payer l'hébergement pour 1 an de mon nom de domaine, puis tout ça. Mais sinon, moi, c'est ça. La raison pourquoi mon show sonne bien, c'est que avec cet argent-là, c'est là que j'ai investi dans l'équipement, tu sais.
Moi, ce que je trouve plate là-dedans, c'est le côté tabou du podcast, du succès du podcast. Oui. Comme dans mon cas, ça est arrivé cet été, par accident, avec une des personnes qui s'occupe de Radio H2O, de dire « Bon, mes chiffres. » Il a sorti mes chiffres, mais moi, je voulais pas les savoir. Ça faisait 4 ans, je les ignorais. Moi, dans ma tête, c'était comme j'avais quelques milliers de personnes qui écoutaient peut-être. Puis à un moment donné, il a sorti mes chiffres. Puis à un moment donné, à la fin de l'été, j'ai sorti mes chiffres aux gens pour aller chercher justement une genre de commandite ou montrer aux gens que... Il n'y avait pas juste 3-4 personnes qui écoutaient ça dans leur sous-sol, le podcast. Il y a quand même des gens qui écoutent ça dans le métro, au travail, sur la route, des camionneurs. Il y a beaucoup de gens qui en écoutent quand même du podcast. Mais quand j'ai sorti mes chiffres, ça a apparu comme un gars hautain, un gars qui voulait s'en faire accroître. Il y a comme une espèce de jalousie que j'aime pas, des fois, qui ressort. C'est comme, non, je fais ça pour le podcast. OK, oui, c'est mes chiffres à moi, c'est correct, je les ai forgés. Mais soyez pas jaloux. Allez les chercher, ces chiffres-là. Essayez de vous motiver. Essayez d'aller voir plus loin un petit peu.
Comprendre pourquoi, pourquoi tu t'es rendu à ces chiffres-là. Il y a différentes raisons. Tu as fait différentes affaires.
Mais pourquoi être jaloux? Mais pourquoi envie? Pas envier. C'était pas de l'envie. C'était vraiment des gens qui me demandaient, c'est ça, tu fais ça. Puis pourquoi tu te montes aux gens? Tu veux te penser meilleur? C'est ça. J'aimerais ça mettre une marge, que les gens puissent se motiver et dire, écoutez, oui, le podcast, c'est un médium qui est, on le dit, là, c'est vraiment, c'est caché, c'est pas hyper connu, c'est pas hyper sexy, mais on est capable d'aller chercher beaucoup de gens et rejoindre des gens avec ça.
Toi, tu as des shows qui tapent des 8-10 000 là, des fois.
Oui, régulièrement. Ouais. Dans mon top, c'est du 12 à 15 000.
Ouais. C'est excellent. Ben, moi je pense que mon show le plus téléchargé, c'est pas loin de 10 000, autour de 10 000. T'sais. Sinon, ma moyenne, c'est sûr, j'ai un sujet très, très de niche, là, mais je tape quand même 2900, pas loin du 3000 pour un show sur le podcasting au Québec. On s'entend que c'est...
Mais peut-être une chose,
pas chercher des millions d'auditeurs avec ça.
Pour ce genre de commentaires-là, parce que c'est souvent fait par des commentaires de... ça vient souvent des gens qui, soit ils n'en ont pas fait ou viennent de commencer. Mais regarde, la première fois que tu en fais, tu n'auras pas 10 000 personnes qui vont... T'es qui, toi? Prouve t'es qui, toi. Je pense qu'une réponse à ça, parce que j'avais, moi, il y a quelques années aussi, le même son de cloche des gens, c'est de dire, oui, mais mon premier podcast, il y a eu 3 downloads. Puis c'était là-dessus, il y en a 2, c'était moi. Puis le troisième, je le connaissais pas. Mais ça, c'était magique, là. Il y a quelqu'un que je connais pas qui a écouté mon affaire. Mais après ça, la deuxième, ça a monté.
Oui.
Mais c'est ça, la chose. Tout le monde commence à zéro.
Oui. tout à fait. Le temps file, puis là, on va inviter notre troisième invité.
Es-tu là?
Il est là, puis il est là sous sa machine.
Il se cache.
Monsieur Jean-François Poulin. Vous connaissez-vous Jean-François, vous autres?
Je ne connais pas Jean-François.
Je vous ai envoyé le nom, c'est qui Jean-François, tout ça. Tu vas y goûter, Jean-François, quand même, au carburant?
Non, merci.
Je vais prendre sa part.
Ben oui, quand même. Ah, j'ai oublié de faire ça. C'est là que ça sonne mieux. Vas-y. Bah. Jean-François, Monsieur Jean-François Poulin, premièrement, avant d'embarquer dans le vif du sujet, d'où tu viens? Comment on s'est connus? Moi, je le sais, les autres le savent pas. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie?
Bonne question. Enfin, je ne suis pas un ancien comme vous. Je vous entends parler depuis tout à l'heure. Là, puis je ne suis vraiment pas un ancien du podcasting. Puis tu vas sûrement me dire 15 fois de bien parler dans le micro.
C'était pas ça la question.
C'était quoi la question?
Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce qu'on s'est connus? Parce que...
Où est-ce qu'on s'est connus?
Ben, sur un mandat. Là. Un mandat que toi, tu faisais du... Je pense que c'était pour Jean Lemay. Hein? Tu te rappelles pas?
Oui.
Ouais, c'est là qu'on a commencé plus à... Jean-François fait du web. Je vais le dire à ta place parce que là, tu n'as pas l'air à parler.
Tu sais que si tu me pars, j'arrête plus.
Non, je sais.
Ça fait aussi longtemps que toi, je suis dans le métier quand même.
Ouais.
Je suis spécialisé maintenant dans ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Puis l'expérience utilisateur, ben, c'est de s'assurer que les gens comprennent bien ce qu'ils utilisent. On a eu toutes les mauvaises expériences depuis le début du web où les gens programment directement sans prendre la peine de vérifier si ça fonctionne.
Ça marche,
ça fonctionne pour les utilisateurs.
Au début, on s'est connus, on a commencé à travailler sur un projet. Moi, j'étais designer. Lui, travaillait pour la structure du contenu puis les wireframes du site web. Tu vois, ça fait longtemps parce qu'aujourd'hui, on parle plus de UX et tout ça.
Hey, sérieux, pouvez-vous dire des termes que je comprends, s'il vous plaît? Moi je ne suis pas un geek.
Wireframe, des structures en fil de fer de site web. Donc, tu définis quelle structure, quelle va être ta navigation à travers un site, comment tu vas bouger à l'intérieur d'un site web.
Désolé.
Donc, Jean-François fait ça.
Tu as de l'argent à faire là-dedans?
Plus qu'avec le podcasting.
Okay.
Oui, tu y demanderas. Ceci dit, c'est ça, Jean-François fait ça, puis il s'est mis à organiser les événements Tout le monde UX. On va faire une petite pub gratuite.
Exact.
Avec qui déjà?
Puis, avec d'autres collaborateurs en UX. Les noms ne diront pas grand-chose à personne.
Ouais, mais UX, pour nos amis ici qui connaissent moins ça, exactement ce que ça veut dire?
Il y a des têtes qui disent oui. Alors, l'expérience, tu veux que j'explique?
L'expérience
utilisateur, comme je disais, c'est juste que tu veux t'assurer. Il y a une méthodologie qui a été mise en place dans les dernières années après de nombreux échecs dans le web où on en a tous vécu, là, des sites... Tu rentres là-dessus puis tu comprends rien. Ça fonctionne pas. Les boutons sont all over the place. Les couleurs, c'est pas compréhensible. Donc, il y a une espèce de méthodologie qui a été mise en place pour s'assurer même que la personne qui te demande... Parce que des fois, c'est quand même des budgets de 100 000. Tu parlais tout à l'heure. Y a-tu de l'argent? Oui, il y a de l'argent là-dedans. Des fois, c'est un budget de 100 000. Puis j'ai déjà vu des expériences, puis toi aussi, j'imagine, où tout est à refaire.
Oui.
C'est un désastre.
On vérifie
à l'avance.
Parce que des fois, c'est pas parce que tu engages une entreprise qui te charge le go prix qui sont nécessairement bons pour faire ce qu'ils font. Des fois, j'ai vu des fois des dizaines de milliers de dollars être dépensés, puis être obligé de jeter tout. Fait que, l'expérience utilisateur. Et ils organisent des événements une fois par mois. Tout le monde UX, donc, où est-ce que ça jase de, justement, telle application, comment ça marche, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, etc. C'est ça, en gros?
Exactement. Puis, j'ai rencontré les gens de Crypto Québec. Je ne sais pas s'ils vont être là en fin de semaine.
Oui, dernièrement.
Puis, sans les avoir rencontrés en personne, je trouvais qu'ils faisaient un peu... Oui, je parle dans le micro, mais j'essaie de le regarder en même temps. C'est mieux comme ça.
Embrasse le micro.
French le micro. Voici Jean-François.
J'ai trouvé que les gens de Crypto-Québec faisaient un peu pitié. Je les écoutais. Ils enregistrent un contenu très intéressant depuis plusieurs mois, mais ils n'avaient pas d'équipement. Donc, j'ai réussi à établir un partenariat avec la Magnétothèque, maintenant qui s'appelle Vues et Voix, qui prête, pour tous ceux qui veulent faire du podcasting, prête leur studio de 6h à 8h, du lundi au jeudi. Puis c'est un vrai studio de radio sous-utilisé.
Il est ici à Montréal. Là.
Un très beau studio...
D'ailleurs, on devrait aller enregistrer là.
Et c'est gratuit en plus pour l'instant. Évidemment, comme là, je les ai mis en contact avec des gens de crypto, il y a un échange de services qui va avoir lieu pour les fils RSS, tout l'aspect technologique. Donc, c'est une question de donation, de petits montants d'argent ou d'échange de bons services. Mais ils sont très gentils de donner un studio. C'est un vrai studio de radio, là, capitonné, calfeutré, oui, oui, avec les micros.
Oui, puis il y a quelques années, on a travaillé avec eux autres, lui et moi, ensemble et séparément, là, avec Vues et Voix. Mais il y a quelques années, il y avait la vieille console, un peu comme il y avait à CIBL, là, avec du faux bois dans le côté, puis tout le kit, il y avait ça. Puis à un moment donné, là, ils ont eu une subvention. Écoute, ils ont tout changé. C'est top, là, la console est top. Puis vraiment, c'est excellent. Là. Ils ont des excellents micros, là. Ouais.
Et des bénévoles qui sont là pour aider les podcasteurs, ouais. Pour ceux qui n'ont aucune connaissance en technologie, puis ils vont te remettre le wave le lendemain. Puis
eux, en fait, font une radio pour les gens qui sont non-voyants et aveugles.
À la base, oui.
Malvoyants et aveugles, pardon, parce que non-voyants et aveugles, ça se ressemble pas mal.
Oui, pas mal.
Ils enregistrent des livres audio pour la grande bibliothèque. Donc, ils enregistrent. Fait qu'ils ont des booths aussi séparés pour aller enregistrer juste sa voix tout seul. Ils ont
et ça vraiment, aussi, là, les petits booths one-on-one, là, le 1-1, sont offerts si les gens veulent aller enregistrer un podcast là-dedans. Ouais.
Un booth isolé, soundproof, qui ça sonne top, là. Ouais, fait qu'on peut faire ça.
Je suis un nouveau venu dans le métier, mais
ben oui, c'est parce que
déjà, je crée des partenariats, des trucs qui peuvent être intéressants.
Là, je voulais te demander, justement, Jean-François, pourquoi je t'ai invité aujourd'hui à parler de podcasting au Podcast Mania?
Parce qu'on part un podcast ensemble.
Va donc, on part-tu un podcast ensemble?
Ah ben, on fait ça.
Ben,
il n'y a pas d'hasard. Hein?
Ben non. Hein?
C'est un coup monté, cette affaire-là, je pense.
Oh, j'ai comme l'impression.
Je vais apprendre à parler dans le micro, puis ça va se passer de mieux en mieux.
Oui, c'est ça. Hein? Tu parles en avant. Tu peux regarder les gens de côté, là, mais parles en avant.
J'essaie de faire comme toi, mais c'est comme... Ouais.
Mais non, regarde, mets ta bouche dessus.
Bouge les yeux, pas la tête.
Oui.
D'accord.
C'est ça.
Puis, oui, OK, mais c'est un podcast qui va nous parler de quoi, tu penses? Parce que là, c'est un processus. Hein?
C'est ça. On est en train de le mettre en place. On s'en parle tranquillement. Les deux premiers qu'on a faits, on ne les a pas diffusés encore. À ma connaissance,
non,
en
tout cas,
c'est
pas
qu'il y a les enregistrements.
Non, non.
Mais on en parle, on en discute. C'est un peu le making of de ce qu'on veut faire, mais ça devrait toucher design, expérience utilisateur,
technologie en start-up.
Ouais.
On est en train de définir un peu. On aime les technos, on aime le design, l'expérience utilisateur, on aime les start-up aussi, parce que toi, t'as fait partie d'une start-up qui existe encore.
Oui, les deux existent encore.
Ouais.
C'est la dure vie des startups. Hein? Ça va, ça vient.
Ça va, ça vient.
Tout ça. Mais depuis 3 ans, c'est principalement ça que je fais. Puis il y a un écosystème à Montréal qui est super intéressant là-dedans. Martin Lessard en couvre un petit peu en ce moment. Bruno en a fait une la semaine dernière dans son podcast.
Tu parles des podcasts ou est-ce qu'on parle de startups? Oui, OK.
Les gens touchent un petit peu à ce sujet-là à droite et à gauche, mais il n'y a rien de formel encore.
Oui, puis c'est un peu ça l'idée là, de parler un peu en profondeur. Puis ce qu'on fait en ce moment, ça fait longtemps, Jean-François, puis moi, on parle de faire des podcasts. Il sait pas, tu sais, au début, on savait pas trop.
Ça fait longtemps que je te cours après, oui.
Oui, c'est ça. Occupé. Il savait pas trop, puis là, tout ça, puis à un moment donné, il a commencé à dire, ça serait le fun, tel sujet, puis là, on s'en est parlé, mais ce qu'on a fait, ça fait 2 fois, on s'enregistre. La première fois, on l'a fait live dans un espace breather, ou plutôt Julien nous a prêté un espace breather que tu connais, Bob. Puis on est allé enregistrer là, puis on enregistre notre processus. T'sais, on n'a pas défini encore totalement ça va être quoi notre podcast. Quoique là, on commence, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est ça. Fait que c'est tout le processus, OK, qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi on veut faire un podcast? On s'enregistre, on en discute. Puis je pense, avant de faire notre podcast, déboucher sur notre podcast officiel, notre première saison, ça va être le processus pour développer, comment tu développes un podcast de technologie.
Mais ce qui arrive aussi là-dedans, c'est que oui, c'est beau partir un podcast, mais il faut que tu vois comme un peu comme un joueur de baseball, 2 ou 3 coups à l'avance. Tu sais, tu dis, bon, OK, on part un podcast, mais ça va-tu juste durer 6 mois? Ça va-tu juste durer 1 an?
Ouais.
Donc, à quel niveau tu veux rendre ton podcast, le sujet, à quel point ça peut être intéressant pour l'auditeur? Là?
Ben, nous autres, ce qu'on a pensé, puis je pense, c'est ça qu'on s'est dit la dernière fois, voir ça un peu plus comme certains podcasts américains, où est-ce que tu as saison qui dure entre 5 et 10 épisodes. Ils font ça aussi à la CBC. T'sais, ils font une série, il y a 8 émissions. Les émissions sont diffusées, là, genre la saison du printemps. Puis il n'y en a pas pendant l'été, pendant l'automne. Ils reviennent l'année d'après avec une autre série de 8 émissions, mais il y a une constance dans la diffusion. Puis tu sais que ça va être rediffusé l'année d'après.
Et Dieu sait que c'est important, la constance en podcast.
Puis ça, c'est le problème. Oui, je sais. Écoute, l'année que ma fille est née, il y a 2 ans, j'ai fait un podcast. Avant, en 2 jours, j'avais plus que 500 téléchargements. Là, ça me prend une semaine pour avoir les mêmes chiffres. Là. J'ai perdu des auditeurs, c'est ça. T'sais, à un moment donné, faut que tu aies la constante. Mais il y a aussi, faut avertir les gens quand on revient. T'sais, si on part pendant un bout de temps, et c'est des fois, on parlait de Gimlet Media, la start-up qui font des podcasts, que ça marche super bien. problème, c'est qu'à un moment donné, le podcast arrête d'être publié. Tu n'es pas au courant de rien. Ils mettent rien sur leur site web. Puis à un moment donné, whoop, ça revient et ils disent « Ah, il va y avoir une nouvelle saison de telle date à telle date. » OK. T'sais? Mais pendant qu'ils partent, des fois, là, ils ont commencé à le faire, d'annoncer. Fait que je pense que c'est ça. Faut juste que tu le dises aux gens. Tu peux mettre juste un bout de 5 minutes dans ton feed. Tu dis « OK, je t'en pose pendant 6 mois. On revient à telle date. » Mais les gens vont rester abonnés. Si tu fais juste disparaître dans la noirceur, ben là...
Il y a un phénomène dont vous n'avez pas parlé aussi tout à l'heure. C'est dans le mode d'écoute que les gens adoptent. Moi, par exemple, j'ai un des lecteurs de podcast. Puis malheureusement, à un moment donné, c'est autant la radio, tu l'écoutes quand t'as passe, qu'un podcast, tu l'écoutes quand t'as le temps. Mais à un moment donné, il s'accumule. Puis là, tu vois le petit bouton rouge qui dit « Ah, t'en as 50 à écouter. » Ouais. C'est décourageant. T'es en retard dans tous tes podcasts. Puis des affaires comme Gimlet, dont tu parlais il y a deux secondes, c'est la même affaire. C'est qu'ils vont repartir. Autant tu les as suivis fidèlement dans la première saison, que si dans la deuxième saison, tu arrives au 25e, tu dis « Ah, je suis plus un fidèle écouteur. Je suis plus là. Je suis pas un auditeur. »
Ouais, mais dans ce temps-là, tu fais une dépression. Tu te fais arrêter, puis tu te fais payer par des assurances, puis tu n'écoutes que des podcasts.
Laissez-moi mon iPhone, par pitié.
Vis ton Québec comme il faut, là. Je veux dire. Non. Fais des blagues.
Vous parliez aussi tout à l'heure des codes d'écoute. Toi, tu disais, Sylvain, effectivement, dans mon cas, c'est une carte de visite. Ça, j'ai entendu dire ça tout à l'heure. C'est une carte de visite, oui et non. En fait, je m'adresse à une clientèle très spécifique. Tous les événements, tout le monde UX qu'on fait, c'est des professionnels des agences, des UX, des designers, des programmeurs. Donc, évidemment, ce qu'on essaie de faire, c'est de rejoindre cette clientèle-là. Donc, mon objectif n'est jamais d'atteindre 10 000 personnes.
Ouais.
Mais si j'en rejoins 1000 éclairés, je suis content.
Sauf que dans l'optique qu'on veut faire le podcast de technologie, où est-ce qu'on parle des applications, tout ça, et de start-up, je pense que ça intéresse un bassin plus large que ceux qui s'occupent juste de UX. Là. Ça va être beaucoup plus large que ça. Là,
effectivement, mais même si c'était 5000 personnes de notre industrie, pour nous, on serait très gagnants aussi.
Mais à la base, est-ce qu'on cherche vraiment une cote d'écoute? T'sais, en tant que podcast, ça. Où on vit notre passion à fond avec les meilleurs moyens possibles?
Ben, en fait, je te dirais, pour mon podcast personnel, ça n'a jamais été ça le but premier. Puis que mes chiffres ont baissé, bon, regarde, c'est plate, mais c'est de même.
La vie continue.
La vie continue.
Ben oui.
Mais, tu sais, j'ai dit à Jean-François, si je m'investis dans un nouveau projet, je veux, bien le faire. Et ça va être top, ça va être de qualité. Et si ça ne marche pas au bout de deux saisons, je vais tirer la plug.
Mais comment on définit que ça ne marche pas? Un podcast personnel, comme tu dis, j'en ai un moi aussi.
Ouais.
C'est, moi, si ça marche, j'en sors deux épisodes par année, mon podcast personnel. Puis si j'ai eu l'agrément pendant une demi-heure pour le faire,
ouais,
c'est un succès pour moi.
Ah, voilà.
Que 5 personnes écoutent, ça 500, c'est correct.
Ça dépend de ton bon.
Mais pour ce nouveau podcast, qui a vraiment, disons, une cible, on dirait, plus à faire, c'est quoi la définition d'un succès pour vous?
Si tu veux être très, très basé sur l'argent, c'est si tu as un contrat grâce à ton podcast, tu as réussi quelque chose.
OK. Ouais.
Je vous entends parler, vous dites le plaisir de le faire. Je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'en ai du plaisir. J'ai du plaisir aux deux qu'on a fait ensemble. Mais en même temps, il y a la reconnaissance que peut t'amener par tes pairs, les gens qui disent « Ah, c'est le fun, c'est toi qui fais ça. »
Je pense que c'est plus ça. Là. C'est plus,
j'aime être aimé.
Non, mais je n'ai pas un côté moins important que l'autre, mais c'est ton énoncé ou ce que tu dis.
Ouais.
Si après deux ans, on n'a pas de succès,
ouais,
je veux arrêter. Comment tu définis le succès pour un podcast?
Je vais être très honnête. Si on n'a pas entre 5 et 10 000 écoutes en moyenne par émission au bout de deux saisons, je ne le ferai plus.
Mais si tu as, disons, 50 écoutes, mais 10 contrats qui découlent de ça?
Oui.
Monsieur, il y a quatre doigts.
C'est ça aussi l'affaire.
Oui, il y a peut-être ça, tu sais. Mais tu sais, moi je le vois plus comme un type de podcast un peu justement type Gimlet Media ou CBC Radio. Je sais pas si vous avez écouté Someone Knows Something. C'était très bon.
Ouais.
Moi, tu sais, sans être aussi léché que ça, mais c'est un peu ce genre d'univers là que je veux créer. Puis, tu sais, je veux, oui, ça peut amener des contrats, oui, puis tout
parce
ça.
Que la seule raison pour laquelle je pose la question, c'est vraiment parce que j'ai vu beaucoup de ex-podcasters dire « Ah, ça a été un échec pour moi. »
Ah non,
ah, faut
mais,
pas.
Comment ils mesuraient?
Ben, c'est ça ma question, parce qu'un échec, ça peut être le plaisir de la création, ça peut être le plaisir de parler de notre créneau d'affaires, ou ça peut être la business que ça rapporte.
Mais sans que ça soit un contrat, pour moi, c'est d'avoir touché au moins une personne.
Ouais.
Deux, quatre, cinq. Je donne des cours d'autodéfense pour femmes. Quand il y en a une qui revient en disant « ça a vraiment changé ma vie »,
Mais ça le problème des gens, c'est que souvent, ils vont commencer des projets en ayant des attentes. Alors que l'Internet, c'est comme un monde tellement vaste, tellement irrégulier. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. C'est comme la température. Donc, tu peux partir quelque chose, tu n'as aucune attente, ça part en fou. Alors que où tu peux partir quelque chose, tu as des grosses attentes, beaucoup de budget, puis ça floppe. Donc, les gens qui partent souvent avec des attentes vont souvent
être déçus. C'est la beauté du web. Ben oui. Commencer très petit sans prétention puis d'arriver à quelque chose d'énorme. Effectivement. Et sans
prétention ou pas, je veux dire, tu fais ce que t'aimes au niveau du podcast puis le retour va se faire tout seul, tout simplement. Ouais. Là. Ça peut être gros comme petit, mais tu dois être satisfait de ce que t'as. Ce que tu reçois, dans le fond, c'est ce que tu as semé, dans le fond. Moi, c'est comme ça que je le vois, le podcast. Puis,
juste avant de terminer, toi, Mike, as-tu des objectifs au niveau podcast? Parce que là, tu sais, je t'ai entendu ce matin sur ton podcast dire hey, tu avais envie juste d'être le podcast le plus téléchargé sur Radio H2O. Tu t'es fixé ça comme objectif, mais blague à part, là, tu te mets-tu des objectifs comme ça?
Non, pas vraiment. Là, c'était vraiment parce que eux autres, ça a été une inspiration pour moi. Donc, je voulais que l'élève devance le maître. Je suis vraiment content, mais pour le reste, j'entends le monde rire, mais c'est vraiment ça. Le reste, je m'amuse. Le jour que je m'amuserai plus, ça va être terminé. Je vais tirer à bloc. Je vais continuer à avoir la petite vie tranquille de Michel Tremblay qui gagne très bien sa vie. Il a une belle famille et tout. Je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être être déçus que l'émission ne sera plus là, mais je veux dire, quand j'aurai plus de fun moi-même, je vais tout arrêter.
C'est bon.
C'est tout simplement ça.
Merci les gars. On arrive déjà à la fin, 14h44, il reste une minute.
Il reste de la bière,
on pourra finir.
C'est pas terminé.
tant qu'il reste de la bière, il y a de l'espoir.
Et voilà.
Donc bref, merci les gars, c'était un plaisir de vous jaser sur ce show-là.
Hey, merci, puis j'ai une bouteille de bière à remettre, je veux dire, on va faire ça rapidement. Oui. Qui gagne moins de 20 000 $ par année? Ah ben c'est lui qui gagne la bouteille de bière, voilà, c'est fait, donc j'ai... Ça a été aussi facile que ça.
Je veux voir ton T4 avant. Non, c'est une blague.
Hey, merci. Merci, Sylvain.
J'espère que vous avez apprécié. J'espère que... en tout cas, je dis souvent que j'ai pas de temps, mais... Jean-François Poulain puis moi, on est en train de préparer quelque chose. Hein. On se donne le temps de bien le faire, de faire les choses, de faire quelque chose qui nous intéresse. Fait qu'à un moment donné, il y a une série de podcasts qui apparaîtront. Je me donne comme objectif janvier, quelque chose comme ça, avec Jean-François. Vous avez entendu Mike Tremblay aussi. Mike, qui avait pas de moment pour lui au Podcast Mania. Fait que je l'ai invité sur mon show parce que on se connaît en ligne depuis un bout de temps, parce que j'aime bien ce qu'il fait. Il y a une façon à lui de faire des podcasts, je l'ai dit. Une structure radiophonique, mais un ton podcastique. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Puis, mon ami Bob, qui est c'est assurément le dernier audio en français qui a enregistré. Bob, c'est un francophone, mais il a enregistré des podcasts en anglais. Il a enregistré un autre podcast avec deux amis le mardi, juste après, donc à peu près 2-3 jours après qu'on se soit parlé. Puis, il est décédé le jeudi soir. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est frais, ça fait mal à en parler. Je vais sûrement faire un épisode sur Bob un peu plus tard, où est-ce que je sentirai une meilleure distance face aux événements qui se sont passés. Juste pour vous dire, quand j'ai demandé à Bob de venir à Podcast Mania, il m'a même pas posé la question, c'était quoi cette affaire-là. Il m'a même pas dit, je vais voir si j'ai le temps. Il m'a dit oui tout de suite. Il m'a dit oui, vu que c'est toi, je viens tout de suite. C'est tout. C'était ce genre de gars-là, c'était le genre d'amitié que j'avais avec ce gars-là. Un gars pas compliqué, puis c'est ce qu'on aimait l'un de l'autre. On compliquait jamais les affaires. Il n'y avait jamais de conditions. Jamais, on se disait jamais, je vais voir. Non, c'était toujours, oui, je suis partant. On se demandait à chaque année, viens-tu à Podcamp Toronto? L'autre répondait tout simplement, oui. Puis moi, je proposais, j'achète les billets de train pour qu'on puisse être assis côte à côte. Lui, il répondait, OK, j'achète la chambre d'hôtel. C'était simple de même avec Bob. Nos voyages en train vers Podcamp Toronto, où est-ce qu'on passait 5 heures ensemble à jaser de choses et d'autres, ça va me manquer à chaque année. Parce que on se jasait en 5 heures, aller 5 heures retour, on a le temps d'en dire des affaires. Puis quand on se jasait, oui, on jasait un petit peu de nos amis dans le milieu du podcasting, nos grands chums qu'on s'est fait au fil des années, mais on se parlait surtout de ce qu'on vivait personnellement. On se parlait de nos blondes, nos enfants. Son gars, il a juste quelques mois de plus que le mien. Le sien est en secondaire 2, le mien est en secondaire 1. Fait que souvent, comme l'année passée, son fils était en secondaire 1, puis il me parlait de ce à quoi il faisait face, puis bon, comment c'était l'entrée au secondaire. Puis dans ma tête, je me préparais à ce que j'allais avoir à dealer avec mon fils. Puis ça a toujours un peu été comme ça. Je le regardais un peu comme un grand frère, tu sais. Fait que c'est ça. Puis dans nos discussions qu'on a eues au fil du temps, tu sais, il y a bien des choses très personnelles qu'on s'est dites, des choses qu'on s'est dit par la suite. Hey, cette affaire-là, je pense que j'en ai jamais parlé à personne. Puis la beauté là-dedans aussi, c'est que on n'a jamais eu à se dire ça, parle-en pas à personne. Il sait que ce qu'on s'est dit, j'en ai jamais parlé à ma blonde ou à qui que ce soit d'autre. Puis je sais que ce que je lui ai dit, lui aussi a gardé ça pour lui. Et c'est le genre d'amitié très précieuse. Puis ben voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis juste, tu sais, Bob avait 47 ans. La vie est courte. Appelez les gens que vous aimez. Prenez les gens que vous aimez dans vos bras. Dites-leur. Moi, quand c'est arrivé cette journée-là, j'ai dit d'une façon ou d'une autre où j'ai appelé mes parents, mon frère, ma soeur. J'ai pris mes enfants, ma blonde dans mes bras. Je leur ai tous dit que je les aimais. Je vous dis aussi de faire attention à vous. Allez chez le médecin quand vous avez un petit doute. Bob, il y avait un petit doute côté santé. Il devait aller passer des tests de résistance cardiaque, puis il remettait ça à plus tard parce qu'il n'y avait pas le temps, parce qu'il y avait 1000 choses à faire. Puis, il y avait les artères bouchées, tout simplement. Puis un test comme ça, il lui aurait simplement sauvé la vie, il aurait eu une opération, ça aurait été réglé, il serait là, tu sais. Fait que, niaisez pas avec votre santé, c'est tout ce que je peux vous dire. Ben, je vous dis à bientôt. J'ai déjà 2 shows d'écrits d'avance, donc j'espère pouvoir les enregistrer bientôt. Sinon, vous pouvez entendre ma voix dans le podcast de Bruno Guglielminetti. Il m'a invité sur son show aussi. J'irai probablement récupérer une partie de l'audio puis vous mettre ça dans un prochain podcast aussi. Sinon, allez l'écouter. Je vais vous mettre les liens dans les notes de l'émission. Puis, sinon, je vais vous mettre dans les notes de l'émission des liens vers les shows de Bob. Puis, je vous laisse en ce moment avec... un de ses shows de Bob, ça s'appelait Bob Stuff, où est-ce qu'il enregistrait juste des petits bouts d'audio, pas de montage, pas de bullshit, pas rien, c'est vraiment ses pensées. Un petit bout d'audio qu'il a enregistré l'été passé avec d'autres de nos amis. Bien, en fait, il était en leur compagnie, mais il a enregistré tout simplement ça tout seul devant eux. Je vous mets ça, c'est 4 minutes, mais je vous jure, ça va être les 4 meilleures minutes de votre journée. Donc, je laisse la parole à Bob, puis je vous dis à bientôt. Ciao.
Welcome to Bob Stuff 60.
60?
60.
There's no funny way you've done 60 of these.
This is the 60th one. It's the palindromic knot. Palindromic knot. It's been, a year and a half since I did one of these, so that's kind of weird. I want to riff on something. I was having a chat with Candace yesterday, and maybe... these aren't fully formed thoughts, so maybe it won't work. But in which case, we all know each other so well, you can just say, Bob, fuck off.
Bob, fuck off.
Yeah. Thank you. Now that that's out of the way.
Can we say, go fuck yourself?
No. That's really harsh.
It's harsh, but it leads me into my topic. Anger is not strength. Anger is weakness. Vulnerability is strength. I've learned this in recent years. With a career change, with life changes and things like that that happen to everybody. Being a, I guess I'll stick on topic, white, Canadian, French-Canadian male, podcasting in his second language, the lesson we are taught, or I was taught, you don't show weakness, you don't show any uncertainty, and if you disagree with something, you do it vehemently and protect your turf. And what that does is build walls. When I now, in my new way of thinking, and it's a new age thing, and I didn't read Kerouac, it's weird.
Who does, really?
Well, nobody does, really. You can change a conversation or a conflict by showing vulnerability. And you can make the connection over, even if it's a disagreement of ideas, and if both people are willing to be vulnerable, the disagreement or the differing opinions can be put to the side and the connection can still be made. And that's a weird realization for me to get at 47 years old, but I'll take it. We don't all agree on everything. But if you stick to wanting to connect to the person, not the idea, and this may be touching a bit about what you were saying earlier, Candace, showing vulnerability is very, very hard. I work in a big corporation. There's 409,000 of my closest coworkers that work with me. And you're taught, if you're going to climb that ladder, if you're going to do these things, and if you're going to be the suit-wearing executroid, you will be powerful and you will not show weakness. And then I started showing weakness. And I got further and further ahead. And I got better and better people in my network. I got better and better connections with the people I already knew. And I'm not saying that every time something didn't go my way, I ended up crying or, you know, there's vulnerable and then there's wussy, right? But
is that the French term?
Wussy, i.e. at the end, yeah. That's my point, is consider vulnerability. If you, you know, we've all seen that cartoon, someone on the internet is wrong, I must correct them. Don't do that. Try to consider a vulnerable position. Not for your quote-unquote opponent or person who has a different opinion than you. Try to consider from your vulnerability. Why are you getting so uptight? Why are you getting so angry? Why are you telling people to go fuck themselves? At the end of the day, vulnerability is strength. And that's my food for thought for today.